Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les chefs des forces de défense de l'EAC et de la SADC appelés à se réunir incessamment afin de fournir des directives techniques, notamment sur le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités. C'est ce qui ressort du sommet conjoint EAC-SADC tenu ce week-end en Tanzanie. Calvaire pour les voyageurs entre Goma et Bukavu via le Rwanda. Actuellement, c'est l'unique voie pour relier le nord au sud Kivu et les voyageurs sont obligés d'acheter un laissez-passer tenant lieu de passeport valable à Bukavu et Uvira, tandis que ceux qui quittent Goma via Gisenyi au Rwanda doivent obtenir une autorisation spéciale de circulation délivrée par la rébellion. Et puis, ce matin, nous recevons le député national Gratien Irachan de Saint-Nicolas. Il nous parle des recommandations politiques et diplomatiques votées à l'Assemblée nationale pour permettre au chef de l'État de faire face à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Le sommet conjoint SADC-EAC ordonne l'élaboration et la mise en œuvre immédiate des modalités de retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire de la RDC. Il exige également la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris le M23 dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. C'est ce qu'indique le communiqué final du sommet conjoint EAC-SADC tenu ce week-end à Dar es Salaam en Tanzanie. Plus de détails avec Blaise Makasinandes.
Le sommet conjoint appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation et à la levée de mesures défensives du Rwanda et du désengagement des forces de la RDC comme convenu dans le processus de Luanda. Il a demandé aux chefs des forces de défense de l'EAC et de la SADC de se réunir dans les 5 jours et de fournir des directives techniques sur le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités, la fourniture d'une assistance humanitaire, y compris le rapatriement des personnes décédées et l'évacuation des blessés. Le sommet a aussi recommandé à ces mêmes forces d'élaborer un plan de sécurisation pour Goma et ses environs, l'ouverture des principales voies d'approvisionnement, y compris la navigation sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu, mais aussi la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma. Le sommet conjoint a réaffirmé les rôles essentiels des processus de Luanda et de Nairobi et a ordonné que les deux soient fusionnés en un processus Luanda-Nairobi. Le sommet conjoint a, en outre, décidé de renforcer les deux processus afin d'améliorer leur complémentarité.
Au cours de ce même sommet EAC-SADC clôturé hier en Tanzanie, le président kényan William Ruto a souligné qu'une action collective urgente est essentielle pour faciliter une solution négociée au conflit dévastateur qui, selon lui, freine le développement de l'une des régions les plus prometteuses du monde. Voici un extrait des propos de William Ruto sélectionné par Polly Mousalia.
L'Est de la RDC est plongé dans un conflit dévastateur depuis plus de 2 décennies. Cette tragédie a coûté la vie à des milliers de personnes déplacées, d'innombrables civils infligés de souffrances et de pertes insupportables et freiné le développement de l'une des régions les plus prometteuses du monde. La récente escalade des hostilités à Goma et dans les zones avoisinantes est un rappel brutal de la fragilité croissante de la situation et du fait que seule une action collective urgente peut faciliter une solution négociée et soulager les souffrances. Aujourd'hui, nous nous réunissons afin de réitérer nos appels aux parties à ce conflit tragique à cesser immédiatement les hostilités et à prendre des mesures positives pour permettre un dialogue constructif et rétablir la stabilité.
Pour sa part, la présidente de la Tanzanie soutient que la crise en cours dans l'est de la République démocratique du Congo continue de mobiliser l'attention de la communauté régionale. Dans son discours d'ouverture, Samia Suluhu a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir les initiatives diplomatiques en cours pour mettre fin à cette crise. Une déclaration forte alors que le groupe rebelle M23 soutenu par l'armée rwandaise poursuit son offensive dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. On écoute un extrait de l'intervention de la présidente de la Tanzanie, propos sélectionnés par Polly Muzalia.
La Tanzanie est profondément préoccupée par l'insécurité persistante dans l'est de la RDC. Les conflits en cours ne déstabilisent pas seulement nos frères et sœurs de la RDC, mais mettent également à mal nos efforts pour renforcer l'intégrité régionale. Mon pays reste déterminé à soutenir les initiatives diplomatiques en cours visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC et nous appelons donc toutes les parties impliquées dans le conflit en RDC à s'engager positivement dans les négociations, à donner la priorité au bien-être de son peuple et à s'engager en faveur d'une coexistence pacifique. Excellence, notre réunion ici à Dar es Salaam devrait être l'occasion pour nous de réfléchir sérieusement et de nous engager de manière constructive sur ce qui doit être fait pour aider nos États membres à relever les défis en matière de sécurité. Malgré la complexité de la question que nous traitons, nous devons être confiants que cette réunion aboutira à des propositions et à des mesures concrètes pour relever d'urgence les défis existants afin d'éviter une catastrophe humanitaire imminente.
Entre-temps, l'archevêque de Bukavu a récemment envoyé une lettre au gouverneur du Sud Kivu, lettre dans laquelle il exhorte les autorités du pays à prévenir toute détérioration de la situation afin d'épargner la population du Sud Kivu des douloureuses expériences du passé dont les cicatrices sont encore présentes, dit-il. Jean Kassami a lu pour nous cette lettre.
Dans sa correspondance, François-Xavier Maroy mentionne que le peuple a les yeux et les oreilles tendus vers les sommets en cours en Tanzanie. Et que nos dirigeants, qui sont nos frères africains, prennent des décisions utiles pour arrêter la guerre au lieu de prolonger les discussions qui laissent le peuple meurtri dans l'agonie. François-Xavier Maroy ajoute encore, nous encourageons nos vaillants militaires pour qui nous ne cessons de prier. Nous déplorons cependant que certains de nos frères qui vont ou qui reviennent du front semblent nous assimiler en leurs ennemis, en nous pillant et nous tuant pour rien. Et on entend dire, poursuit encore le prélat de Bukavu, que certains militaires commencent à vouloir installer leurs armes dans les parcelles de paisibles citoyens, comme pour transformer Bukavu, cette ville martyre de plus de 3 décennies, en un champ de bataille. Il faudrait y penser par 2 fois, tenant compte, entre autres, du récent carnage de Goma, conclut François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu.
Par ailleurs, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, condamne avec la plus grande fermeté l'attaque brutale qui a coûté la vie à 3 travailleurs humanitaires de l'ONG Ex-Epper. Attaque survenue le mercredi 5 février au village de Kabirangiriro, au Nord Kivu. L'information est contenue dans un communiqué du bureau du coordonnateur humanitaire en RDC, publié hier samedi. Nos collègues humanitaires, dévoués à leur mission, ont été attaqués alors qu'ils œuvraient pour fournir une assistance vitale aux populations vulnérables touchées par les conflits dans le territoire de Rutshuru. Cette tragédie porte un grave préjudice non seulement aux familles des victimes et à leur organisation, mais également à la communauté du fait de la suspension des activités de l'ONG Ex-Epper dans la zone de santé de Bambo à la suite de cet incident tragique, regrette Bruno Lemarquis. Il rappelle que les attaques contre le personnel humanitaire constituent une violation grave du droit international humanitaire. Je vous le disais en titre, les voyageurs entre Goma et Bukavu via le Rwanda doivent s'y conformer à diverses exigences et documents migratoires au Sud Kivu. Un laissez-passer CPGL est requis, tandis qu'à la grande barrière de Goma, un document spécial de circulation CPGL délivré par la rébellion est exigé. Cette situation décourage certains habitants d'emprunter cette route et certains voyageurs ont été arrêtés ou ont vu leur carte d'identité refusée ou retenue par les services. Sifa Maguru nous en parle.
Alors que c'est la seule voie qui reste pour relier le nord au sud Kivu, les voyageurs sont obligés d'acheter un laissez-passer tenant lieu de passeport valable à Bukavu et Uvira, tandis que ceux qui quittent Goma via Gisenyi Rwanda doivent obtenir une autorisation spéciale de circulation délivrée par la rébellion. À cela s'ajoutent des contrôles des documents par les services de sécurité tout au long de cette voie qui mène jusqu'à Ruzizi Premier, à la frontière entre Kamembe et Bukavu. Une distance d'au moins 4 heures de route. Cependant, pour ceux qui obtiennent des jetons, faute de moyens pour traverser, ceux-ci n'ont pas droit d'aller au-delà de Gisenyi, nous expliquent des habitants. Toutes ces exigences ne facilitent pas les mouvements de la population, alors que beaucoup de gens qui ne se sentent pas en sécurité à Goma préfèrent sortir par le Rwanda pour se rendre vers le Burundi, l'Ouganda et ailleurs. Des témoignages des voyageurs renseignent que les rebelles ont installé leurs agents d'émigration à la Grande Barrière.
Entre-temps, au sud Kivu, le mouvement Lutte pour le changement Lucha dénonce les tueries survenues à Mitikavumu dans le groupement de Bougoré, territoire de Kabaré. C'était dans la nuit de vendredi à hier samedi. Dans une déclaration signée hier à Bukavu, Lucha rapporte que 9 personnes ont été tuées par certains éléments des FARDC. Lucha s'interroge sur les motivations de ces militaires en cette période où la province du sud Kivu est menacée par les rebelles du M23. Christian Tamboué, chargé de communication au sein du mouvement Lucha, explique. Il est joint par Jean Kassami.
Ce qui s'est passé dans les territoires de Kabare, précisément à Mouloulou, et dans le groupement de Miti et à Kavumu également dans le groupement de Bougoré. Pour nous, la Lucha, c'est une triste nouvelle parce que c'est la énième fois que nous avions alerté les dirigeants. Récemment, dans notre communiqué déclaration du 29 novembre 2024, nous avons interpellé les dirigeants par rapport à cela. Ce n'est pas l'ennemi qui tue, ce sont nos militaires. C'est pourquoi nous pensons demander aux dirigeants, dans notre déclaration, que nos dirigeants s'impliquent directement, notamment les gouverneurs des provinces et les ministres de l'Intérieur, pour mettre fin à cette situation d'insécurité. Mais également d'identifier ces criminels et de les déférer devant les tribunaux qui sont compétents. Nous demandons aussi à la population d'observer une journée ville morte ce lundi 10 février 2025 à Kavumu pour compatir avec ces familles qui ont été attristées et également pour exprimer notre indignation par rapport à cette situation qui continue à endeuiller nos familles.
Autre nouvelle, le forum Mining Indaba s'est clôturé le vendredi 7 février au Cap, en Afrique du Sud. À cette occasion, le ministre des Mines a présenté les opportunités du secteur minier de la RDC pour attirer les investisseurs internationaux. À la tribune de ce forum international, Kizito Pakabomba a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à créer un climat d'affaires attractif en ligne avec la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le compte-rendu de Blaise Ndongala Mayanda.
Devant un parterre d'investisseurs, le ministre des Mines a assuré que la RDC restait prête à bâtir un avenir prospère grâce à un secteur minier transparent et porteur de développement. Ces messages forts de Kizito Pakabomba a réaffirmé ainsi la place du pays sur la scène minière mondiale. Dans son speech, il a également dévoilé les 5 axes stratégiques pour l'avenir du secteur minier congolais. Il s'agit entre autres de la diversification des partenaires, l'intensification de l'exploration, ainsi que le renforcement de la traçabilité. Kizito Pakabomba a en outre présenté la digitalisation comme un levier clé pour garantir la transparence et la sécurité des investissements. Le panel de la RDC dans ce forum a été constitué de figures influentes du secteur minier ainsi que des représentants des banques ayant partagé leurs initiatives pour une industrie minière durable. À la prise de sa parole, le ministre congolais des Mines a par ailleurs fait observer une minute de silence en hommage des victimes des conflits armés qui sévissent dans l'est du pays.
Dans l'actualité aussi, au Maniema, l'UNESCO a récemment soutenu les acteurs éducatifs provinciaux dans l'élaboration des plans d'action opérationnels budgétisés et sensibles au genre. Après 6 jours de travail intensif, 23 plans d'action intégrant une approche genre ont été produits. Ces plans concernent notamment les divisions des 2 provinces éducationnelles, Maniema 1 et 2, la formation professionnelle, la division des affaires sociales et l'enseignement supérieur et universitaire. À la fin de ces assises, il a été recommandé aux autorités provinciales de s'approprier ces outils pour leur mise en œuvre. Nous y reviendrons.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mali. Plusieurs dizaines de morts dans l'attaque d'un convoi entre Gao et Ansongo. En effet, un convoi civil escorté par des militaires et des mercenaires russes du groupe Wagner a été visé vendredi par des hommes armés sur la route qui relie Gao à Ansongo dans le nord du pays. L'attaque a fait au moins 32 morts selon un bilan provisoire communiqué par des sources locales.
L'invité.
L'Assemblée nationale a voté lors de sa session extraordinaire des recommandations politiques et diplomatiques pour permettre au chef de l'État de faire face à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Parallèlement, le président de la République a rencontré les élus et cadres de l'Ituri pour renforcer la cohésion nationale et mettre fin à la guerre dans l'Est du pays. Pour en parler, nous recevons le député national de l'opposition, Gratien Irachan de Saint-Nicolas. Il répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Gratien Irachan, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Le Parlement a voté des recommandations au cours de la session extraordinaire cette semaine sur demande du chef de l'État pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Qu'est-ce que vous avez recommandé exactement et quelle chance accordez-vous à ces recommandations?
La session extraordinaire a évidemment travaillé à huis clos. Donc ça veut dire que nous sommes tenus au secret défense. Parce qu'il fallait trouver des propositions concrètes ou des recommandations qui allaient permettre à ce que les chefs de l'État, qui est en même temps les commandants suprêmes, puissent avoir des éléments techniques, diplomatiques, politiques qui pourraient lui permettre de pouvoir décider, mais surtout se rendre au sommet qui aura lieu bientôt, afin qu'on trouve évidemment des solutions au problème. Il est évident qu'il y a les processus de Nairobi, processus de Luanda, et tous ces deux processus en dehors maintenant de tout ce que nous avons formulé comme recommandation au chef de l'État pourront permettre bien évidemment que le retour de la paix soit effectif si, bien sûr, ces recommandations sont écoutées.
Le président de la République a reçu cette semaine les élus de l'Ituri et les membres du gouvernement ressortissant de cette province. N'est-ce pas là un signe de bonne collaboration interinstitutionnelle?
Évidemment, nous nous réjouissons de ces gestes du président de la République parce que pour lui, la première chose, il faut la cohésion, il faut l'unité nationale. Bien évidemment, c'est une collaboration que nous aimons toujours et que nous avons toujours voulu, mais la question est de pouvoir appliquer ces contributions que nous sommes en train d'apporter parce que c'est vrai que nous pouvons nous rendre auprès du chef de l'État, mais les bonnes discussions constituent en fait les cadres que nous sommes en train de vivre tous les jours à l'Assemblée nationale où les multiples députés qui font l'unité nationale, ils peuvent aider les pays à pouvoir avancer. Notre pays a besoin aujourd'hui de l'unité et de la cohésion nationale.
Vous avez expliqué au chef de l'État que la dégradation de la situation sécuritaire aujourd'hui est principalement due à la non-exécution des recommandations du Parlement. Que préconisez-vous pour sortir le pays de cette crise?
Personnellement, j'ai présenté mes inquiétudes au chef de l'État par rapport à des résolutions et recommandations qui n'ont jamais été appliquées depuis 2021 et je note que c'est avant l'arrivée de ces groupes MV3. Donc, si le gouvernement avait pris au sérieux toutes les résolutions et recommandations, aujourd'hui, on aurait une partie de la République qui est calme. Parce que les chefs de l'État ne savaient pas qu'il y avait des résolutions et des recommandations prises par l'Assemblée nationale le 29 septembre 2021 à propos de cette insécurité de l'Est, notamment avec l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu. Ce qui est très très drôle pour nous, d'autant plus que si les chefs de l'État n'est pas au courant de ces résolutions, c'est soit parce que l'Assemblée nationale n'a pas lui transmis ces résolutions et recommandations, ou alors ces résolutions et recommandations ont été tout simplement bafouées par certaines personnalités au niveau de la présidence de la République. C'est comme ça que les chefs de l'État se retrouvent parfois en difficulté. Donc nous demandons que les chefs de l'État fassent confiance aux institutions et que nous, des institutions aussi, puissions faire confiance aux chefs de l'État pour qu'on puisse s'en sortir. Sinon, le pays ne va pas s'en sortir et c'est notre population qui va pouvoir en souffrir.
Vous avez été parmi les plus grands acteurs dans la lutte pour la levée de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Dans quelle mesure l'état de siège constitue un problème plutôt qu'une solution?
Je dois vous rassurer que l'état de siège devrait apporter des solutions aux problèmes du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais rapidement, il y a eu un problème d'animateur au sein de l'état de siège. Et vous savez, avec les pouvoirs politiques que les militaires ont géré, on a vu plus maintenant des militaires responsables, des animateurs de l'état de siège s'élancer plus dans l'administration et dans l'affairisme, comme nous l'avons toujours dit, que de pouvoir se focaliser sur les questions précises. Comme nous sommes en guerre, oui, l'état de siège a sa place, mais il faut garder toute prudence par rapport à ces animateurs qui sont en train de chercher à dérouter les vrais rôles que devrait jouer l'état de siège.
Gracien Irachan, je vous remercie.
Le député national de l'opposition Gracien Irachan de Saint-Nicolas répondait aux questions de Michel Kifindangoy. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.